silence.
Vous êtes toujours sur Radio Entre Deux Mers et il est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Anne, donc la conversation autour du cinéma. Donc toujours avec Anne. Salut Anne.
Salut Thibaut. Oui, toujours. Bah oui, oui, oui. Pour l'instant, c'est toujours voilà, on est toujours ensemble. Absolument. Bah,
on change pas une équipe qui gagne.
Voilà. Ah bah oui, le mercredi, n'est-ce pas, le mercredi à 11h, on est tout contents, mes chéris, mes chers auditeurs, nos chers auditeurs, on est tout contents de vous retrouver. Voilà, en tout cas, merci de nous recevoir chez vous, merci d'être là, d'être fidèle à notre radio, Radio Entre Deux Mers, à toutes nos émissions, toute notre musique, enfin tout ce qu'on fait, voilà, et on espère que ça vous plaît, que tout vous plaît. Alors, on va commencer. Ben, écoute, oui, on va parler de cinéma, justement. Alors, tu sais, j'ai mis de côté des films pour les petits mignons.
Et alors, surtout qu'aujourd'hui, ils seront servis, quoi, j'ai envie de dire. On a de quoi.
Ah, oui. Alors, le premier, c'est à partir de 3 ans. Tu vois, tu pourras y aller, hein, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est cool.
C'est cool, hein. Et ça, alors, c'est joli comme tout. Ça s'appelle « Le petit hérisson dans la brume ». Et autres merveilles. Oh là là. Alors, c'est de l'animation, on l'a dit. Alors, ça dure 39 minutes. C'est pour toute la famille. Hein. Et là, oh là là, on a beaucoup, beaucoup de... On a au moins 3 réalisateurs, il me semble. Oh oui, 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 peut-être même plus. Ah oui, par contre, il faut parler des voix. On a les voix dans ce film de Philippe Cobert, grand comédien français, Bruno Raffaelli, Anna Choukisson, et ce sont des habitués en plus, hein. Des habitués du doublage d'animation. Alors, ça c'est dit, on a 4 courts-métrages, et oui, pour 4 moments de cinéma, qui prouvent toute l'inventivité, j'allais me taper sur le mot, toute l'inventivité, pas facile, et la puissance poétique d'un cinéma d'animation fondateur, mais encore trop méconnu en France. Ben justement, on va le faire connaître. Il y a donc ces 4 courts-métrages. Le petit hérisson dans la brume, c'est le premier court-métrage de 10 minutes de Yuri Nordstein. C'est l'histoire d'un petit hérisson qui traverse la forêt pour rendre visite, ben j'en mange les mots, à son ami l'ourson. En chemin, il s'aventure dans le brouillard où l'attendent autant de dangers que de découvertes merveilleuses. Que trouvera-t-il au bout du chemin ? Parviendra-t-il à retrouver le chemin de la maison de son ami l'ourson ? Un film d'animation culte où Yuri Nordstein, cinéaste aussi rare, que délicat, déploie toute la puissance poétique de son imaginaire. Ensuite, on a la moufle de Roman Kachanov, qui dure 10 minutes, la moufle. Une petite fille s'ennuie toute seule. Sa mère refuse de lui laisser avoir un chien, contrairement aux autres enfants. Heureusement, sa moufle se transforme en chiot et sa journée devient aussi trépidante qu'inattendue. La Roman Kachanov, ancien aviateur devenu réalisateur, est l'auteur d'un long métrage, de nombreux courts-métrages, dont les aventures de Guéna, le crocodile, un personnage culte en Russie. Ah oui, ben c'est un russe. Ensuite, on a « Il était une fois un chien » d'Edouard Nazarov. Ça dure 10 minutes. « Il était une fois un chien », oui, mais un vieux chien fatigué, peu utile pour effrayer les voleurs. chassé par ses maîtres, oh les affreux, le pauvre animal trouve refuge dans la forêt, où il fait la connaissance d'un loup sage et plein d'expérience, qui va l'aider à reconquérir le cœur de ses propriétaires. Un conte qui a valu à son réalisateur, auteur de courts-métrages et directeur artistique, une reconnaissance internationale au Festival d'Annecy. Et puis le dernier, c'est le lionceau et la tortue d'Inessa Kovalevskaya, qui dure 9 minutes. Un jeune lionceau croise le chemin d'une aimable tortue, occupée à chanter, couchée confortablement au soleil. Elle accepte de lui apprendre sa chanson et ils deviennent les meilleurs amis du monde. C'est joli, c'est beau comme tout, vraiment. C'est
alors, on voit très bien que c'est d'origine russe aussi, comme dessin animé.
Ah, tout à fait, oui.
Bah déjà, quand on voit dans le synopsis de la moufle, et puis les dates aussi, avec le crocodile de Guéna, qu'on peut retrouver aussi dans le dessin animé très connu russe, Tchebourashka.
Oui.
Oui, je sais pas si tu vois ce dessin animé
avec ce
petit personnage avec des grandes oreilles.
Si, je le connais, ce dessin animé. Moi, j'adore les dessins animés. Chaque fois que je peux en regarder, je me prive pas. Hein.
Mais on voit bien le style de dessin animé russe, quoi.
Guéna, c'est le crocodile, ouais. C'est un crocodile. Ouais.
Qu'on retrouve aussi, dans Tchebourashka.
Voilà. Tout à fait. Ils sont absolument sublimes, hein, ces dessins. Bon, ce sont des réalisateurs extraordinaires. Hein. Il n'y a rien à dire, quoi.
Ce genre de dessin animé, ça me fait beaucoup penser au style dans Wallace et Gromit.
Oui. Ah oui, les personnages. Mais oui, tu as raison. Les personnages, ils sont adorables, les personnages, vraiment. Hein. Pour les enfants à partir de 3 ans, c'est magique, absolument. Par contre, on peut aussi les trouver en DVD, mais je pense qu'on les a. Ils existent peut-être aussi en VOD. Je n'ai pas vérifié, mais c'est possible.
Oui, ça se trouve très facilement en VOD, oui.
Je dis ça pour les parents qui voudraient que les enfants, par exemple, à Pâques, puissent regarder de beaux dessins animés.
Oui, je pense qu'on peut le trouver en VOD, oui, sur Internet.
Mais mes chéris, si vous avez l'occasion de les emmener, vos petits, et vous-même d'ailleurs, parce que vous verrez que ça vous plaira beaucoup, si vous pouvez les emmener au cinéma pour Pâques, par exemple, voir ce petit hérisson dans la brume. Voilà, c'est très beau. Et puis ensuite, alors là, c'est différent. Mais c'est pas de l'animation, c'est mieux encore. Ça s'appelle Prince au pluriel et Princesse au pluriel. 2. Le spectacle au cinéma. Alors ça dure 1 heure. C'est pour la famille aussi. C'est à partir de 3 ans. Hein. Pareil, hein, c'est le même âge qui est conseillé en tout cas. C'est un show et c'est le grand Bemba Debert, qui est un réalisateur, scénariste, acteur, qui donc l'a réalisé. Je pense que c'est son premier long-métrage. On va dire moyen-métrage peut-être quand même. Hein. Entre moyen et long-métrage, 1 heure.
Donc, c'est le métrage, juste au métrage.
Oui, voilà, métrage. C'est le film du spectacle Prince et Princesse, adapté des contes de Michel Oslo, le papa de Kirikou. Qui avait été reçu au cinéma de la Réole d'ailleurs, hein, Michel Oslo. Il est venu 2-3 fois, je crois. Un voyage dans un monde imaginaire empreint de poésie. 4 merveilleuses histoires où se croisent, des fées, des reines, des princes et des princesses. La troupe de comédiens, musiciens, danseurs et chanteurs donne vie en 4 tableaux faits de jeux d'ombre chinoises et de lumière à d'envoûtants contes africains, japonais, égyptiens et perses. Ah ouais, alors ça, c'est... Voilà, quoi, c'est très beau. À partir de 3 ans aussi, hein, pour Pâques, ce serait bien aussi. Bah, c'est-à-dire que là, ça sort au cinéma, là. Pâques, c'est bientôt, puisque Pâques, c'est le 9, hein, je crois. C'est le 9 à...
C'est ce week-end.
Voilà, donc ce sont des films qu'on peut voir pour Pâques, emmener les enfants pour Pâques. Ah oui, ça me paraît une excellente idée. Et puis, j'en ai un autre. Alors, c'est à partir de 6 ans et ça s'appelle « À vol d'oiseau ». C'est de l'animation pour la famille, ça dure 57 minutes. « À vol d'oiseau », ça rassemble 3 courts-métrages d'animation, délicats, sensibles, un pur moment de bonheur aérien à la fin duquel on se sent pousser des ailes. Un programme comme une parenthèse de douceur où les adultes retrouvent leur âme d'enfant. Les plus jeunes grandissent dans l'espoir d'une vie bienveillante où chacun est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes. Nous avons le tout petit voyage d'Emily Worms. Jean est témoin d'une chose extraordinaire. Titi, sa perruche, peut ouvrir la porte de sa cage. Pourtant, l'oiseau ne part pas. En essayant de comprendre pourquoi, Jean se retrouve embarqué dans un monde magique. Titi va pouvoir montrer ses failles et ses peurs et Jean l'aidera à les surmonter. En traversant d'étonnants paysages, ils enrichiront leur amitié et apprendront que dire au revoir, ce n'est pas dire adieu. Et puis j'ai l'air de rien de Gabriel Hainaut Lefebvre. Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme voit sa vie bousculée par l'arrivée d'une mouette qu'il va doucement apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée, l'homme va prendre soin d'elle et retrouver pour un instant son âme d'enfant. Et puis Drôle d'oiseau, c'est le troisième court-métrage de Charlie Belin. Ellie entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature, elle passe son temps plongée dans des livres, en particulier d'ornithologie. Ellie intrigue Anna, la documentaliste du collège, une femme mystérieuse avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le jour où Ellie doit absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est fermée. Elle décide alors de le ramener directement chez Anna, qui vit sur une île sur la Loire, à quelques kilomètres du collège. Une île pleine d'oiseaux. C'est joli, c'est beau, c'est pareil, oh là là. C'est très très joli, vraiment. Eh oui, à partir de 6 ans. Et puis, alors j'ai une dernière animation quand même. Alors là, c'est...
Dis-nous même.
Un personnage, oui, extrêmement connu. Super Mario Bros, virgule, le film. Ça dure 1h32, animation, action, aventure, comédie. Bah oui, c'est pour toute la famille. Bah là, on donne pas d'âge parce que là, les parents savent très bien ce qui peut plaire à leurs enfants, il n'y a pas de souci. Et à quel âge ils peuvent aussi profiter de ce film. Hein, selon la maturité de l'enfant, voilà. Alors, on a deux réalisateurs, Aaron Horvath, qui est un réalisateur, créateur et producteur américain, et je pense que c'est probablement son premier, lui, long métrage. Et il travaille avec Michael Jelinek, qui est un producteur, scénariste, créateur également américain, et qui lui a 16 ans de carrière et 9 tournages à son actif. Donc, alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers sphérique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l'aide du champignon Toad, habitant du royaume champignon, et les conseils avisés en matière de technique de combat de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. C'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a eu d'autres, il y a eu Super Mario Bros, par exemple, qui est sorti en 1989. Il y a eu également Super Mario Bros en 1993. Alors, on nous dit que c'est le moins bon. Celui de 1993 a été...
Celui de 1996 n'est pas très bon, mais il est super drôle.
Voilà.
À regarder, dans le sens...
Oui. Et celui-là, ce serait le meilleur. Hein. C'est ce qui est titré un peu partout. Hein. Que vraiment, celui-là est excellent. On a les voix de Pierre Tessier, Chris Pratt, Audrey Sourdive, bah, comme ce sont toujours leurs voix d'ailleurs, je crois que c'était déjà les voix dans les autres Mario. Voilà. Alors, bah oui, on sait, bah, tout le monde sait que Mario, c'est un célèbre pompier moustachu.
Un célèbre plombier.
J'ai dit pompier, pardon. C'est pompe. Oui, bah oui, c'est ce qui est dit dans le synopsis d'ailleurs, hein, qu'ils sont tous les deux avec son frère. Ce sont deux plombiers. Oui, pardon. Je sais pas pourquoi je dis plombier. C'est un célèbre plombier moustachu. C'est ça. C'était ça. Et alors, moi, je connais le nom du père, le créateur de Super Mario.
Mais il en dit où?
Eh ben, c'est un Japonais qui s'appelle Shigeru Miyamoto. Il a 70 ans et il est surnommé le Spielberg du jeu vidéo. Et il travaille chez Nintendo depuis 1977. Voilà. Shigeru Miyamoto, le papa de Super Mario. Eh oui. Ben, il fallait bien qu'il ait un papa tout de même. Hein. Donc, c'est un film qui est produit par les États-Unis et le Japon. Eh bien, oui. Forcément. Oui, je ne l'ai pas dit, mais pour le petit hérisson du début, c'est la production, c'est russe. Hein. D'ailleurs, on en a parlé justement. Et puis, la production de Prince et Princesse, c'est français. Je ne l'avais pas dit. Et à vol d'oiseau, c'est une production française également. Donc là, on a une production japonaise et américaine. Super Mario Bros. Bah oui, mais là, je suis sûre que les fans attendent hein, avec impatience.
Je crois qu'ils attendaient la bande-annonce, moi.
Oh là là, si tu l'as, c'est trop beau, merci.
C'est si bien amené en plus.
N'est-ce pas?
Donc tout de suite, la bande-annonce de Super Mario Bros, le film.
Dominer le monde.
Waouh. Waouh.
Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi.
Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus? Eh ben non, désolé.
Bowser arrive. Ensemble. Nous allons neutraliser ce monstre.
Comment? Regardez-nous! On est adorables!
Je vous fais ça sans problème! Ouais! Ah ah ouais! Ah tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant!
Enlevez-moi ça!
L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous.
Mario!
Bref, pas de stress.
C'était la bande-annonce de Super Mario Bros. Et là, tu vas nous amener, du coup, on va sortir des films. De l'animation, je crois.
On sort d'animation, oui.
Et nous amènes chez les chats.
Chez les chats, oui.
Mon chat et moi, et la grande aventure du grand roux.
Non, mais d'accord, alors,
J'ai changé l'ordre.
Non, c'est moi qui me suis trompée dans mes notes. Dans mes notes, mon chat et moi. Eh ben oui, c'est moi qui me suis trompée. Bon, mais je vais les retrouver, c'est pas grave. Oh mince. Non, c'est bon. Voilà. Donc, ça s'appelle, le cinquième film s'appelle « Mon chat et moi, virgule, la grande aventure de Roux ». Attention, il faut dire « Roux », il faudrait presque dire « Roux ». Il faudrait rouler les R parce que c'est un grand R. Et puis « R-O-U », accent circonflexe. C'est l'aventure de Roux, Roux. Voilà, Roux. Voilà. Oh, c'est adorable. Alors là, écoutez, mes chéris, pour les fans de chats, si vous adorez les chats, ce film, il ne faut pas le rater. Ah, ça, pour tous ceux qui aiment les chats. Donc, ça dure 1h23. C'est de l'aventure. Hein. Bah, c'est pour toute la famille. Hein. Et également, bien sûr, bah oui, c'est sûr, l'histoire de Roux, c'est pour tout le monde. Et c'est réalisé par un réalisateur, scénariste français, Guillaume Medaszewski. Voilà, il est qui nous a fait vraiment là un très 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 joli film. C'est quoi l'histoire de Roux? Roux est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, 10 ans, l'adopte et l'emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Roux, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais. Et là, on a un joli casting. Elle est adorable, la petite là, Clémence. Elle s'appelle Capucine Saint-Saëns-Fabresse. Cette petite actrice, j'espère pour elle qu'on la retrouvera dans d'autres films. Après celui-ci. Et puis Madeleine, la mystérieuse Madeleine, c'est Corinne Maziro. Ah, quel talent, quel talent. On a Lucie Laurent aussi dans les rôles principaux. On a Nicolas Hudenstock. On a, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on a aussi Juliette Gillis, qui est la copine de Clémence, la petite copine de Clémence. Capucine Saint-Saëns-Fabresse. Cette petite actrice. Et alors les chats, mon Dieu, je vous dis pas à quel point les chats sont trop mignons. Alors en fait, c'est adapté. Mon chat et moi, la grande aventure de Roux est adapté du roman de Maurice Genevoix qui s'appelait Roux, qui est paru en 1931. Maurice Genevoix, bah oui. Et alors le réalisateur explique, il s'avère que ce roman était le livret de chevet d'un des producteurs du film, qui s'appelle Stéphane Millière. Quand il était enfant, évidemment, il en avait acheté les droits il y a une dizaine d'années. Donc, il a contacté le réalisateur, voilà. Après qu'il ait vu, en fait, le premier long métrage de notre réalisateur, là, qui s'appelait Une Odyssée en Laponie. Il a lu le livre et puis voilà, ça l'a emballé et il est parti sur cette réalisation. Alors, le film est émaillé de références à de grands classiques du cinéma. Alors, par exemple, la scène dans le poulailler, il y a une scène dans un poulailler, c'est un clin d'œil assumé à Jurassic Park, plus particulièrement à la scène où le T-Rex entre dans la cantine. Je ne sais pas si tu l'as vu, on se souvient de cette scène-là.
Oui, je l'ai vu, ouais.
Terrible, hein, quand le T-Rex entre dans la cantine et que les deux femmes, la jeune, la petite, et puis je ne sais pas si c'est sa mère, qui essaie de se casser un peu partout. Oui, c'est une scène. Voilà. Et puis, il nous dit il y a aussi ce moment où le chat est dissimulé derrière des poupées. Et ça évoque clairement E.T. Voilà. Et comme il nous dit, le réalisateur, qu'il est très fan de Spielberg et de Burton aussi. Alors, évidemment. Il est très content qu'il y ait des références comme ça. Et oui. Alors, il a l'habitude, ce réalisateur-là, de tourner dans des décors spectaculaires, comme d'ailleurs pour Une Odyssée en Laponie, son premier long métrage. Alors là, il a posé donc sa caméra dans des décors familiers du spectateur. Voilà. C'est vrai que la bande-annonce est très jolie. Et on voit effectivement le décor du film. C'est très beau. La forêt, les champs, l'herbe, puis tout, quoi. Ah. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un très, très beau film, franchement.
Et du coup, maintenant, on va passer à un film plutôt historique, je dirais.
Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Oui, c'est là que j'avais mélangé mes notes, en fait, avec l'établi, ça s'appelle. Et oui, j'avais mis l'établi et j'avais perdu mon chat, si j'ose dire.
Ah ben...
L'établi, ça dure 1h57, donc c'est un drame. Eh ben oui, on passe... Mais je ne pouvais pas passer à côté, je voulais en parler absolument. C'est Mathias Gokalp, qui est un réalisateur scénariste français, qui l'a réalisé. Il a 19 ans de carrière, il a 7 tournages à son actif. Il a eu pas mal de nominations aussi. Je crois qu'il en a eu 5 ou 6 hein, dans sa carrière. Et donc là, l'établi, oui, tu disais que c'était politique, c'est ça, hein, c'est ce que tu disais.
Historique plutôt.
Historique, oui, enfin, historiquement politique un peu quand même. Hein. Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d'extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d'autres de ses camarades, il veut s'infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire. Mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qui travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un mouvement social. Donc l'établi s'est adapté d'un roman extrêmement illustre, qui a le même titre d'ailleurs, hein, l'établi de Robert Linhart. Donc, c'est… Eh oui. Oui, tu vois, quand je disais que c'était… socialo-politique, je ne sais pas, enfin… Dramatico,
c'est quand Politico-dramatique.
Même, ouais, je ne sais pas comment… Oui, voilà, on peut le dire comme ça. Mais c'est un… Alors, Robert Linhart, c'est un homme politique, un sociologue, un philosophe français. Il a 78 ans actuellement. Et le roman est sorti en 1978. On le trouve facilement hein, pour les auditeurs qui voudraient lire le livre avant d'aller voir le film. Ça se fait, ça, quelquefois.
Hein, oui, ça se fait, je le fais aussi.
Oui, ouais, tout à fait. Donc, c'est un... Je ne voulais pas passer à côté, quoi. Ça me semblait important. Alors, on retrouve, ce casting est très beau, on retrouve Swann Harlow. Swann Harlow, il a un talent fou. Hein. C'est lui qui joue le rôle de Robert Linhart. Et puis on a, oh là là, c'est un très beau casting. On a Mélanie Thierry, on a Denis Podalydès, on a Olivier Gourmet, grand acteur belge, qui travaille beaucoup avec la France. Hein. On a Lorenzo Lefebvre, on les connaît en fait tous, on les a déjà vus. On a Malek Lamraoui, on a Zélie Marbeau. La plupart, on les a déjà vus si on a l'habitude d'aller au cinéma. En tout cas, les 4 premiers, on les connaît forcément. Hein. Ah ouais, et c'est vraiment un très très beau casting. L'établi. Ensuite, eh bien oui, c'est pareil là, je ne voulais pas passer à côté quand même.
Alors je te coupe un petit peu avant que tu partes, parce que tu es parti un peu vite, je trouve.
Oui.
J'ai une bande-annonce pour l'établi.
Oh, c'est parfait, je n'osais même pas t'en parler. Oh, c'est parfait.
Et voilà.
Merci.
Donc tout de suite la bande-annonce de l'établi.
C'est bien ici l'embauche, c'est Citroën ? Ouais, c'est bien là.
Première embauche. 6h45 devant l'agent de secteur.
Le premier jour de l'usine est terrifiant pour tout le monde. Des mois et des années là-dedans.
Ali, contre lui, là.
Bonjour. Bonjour.
Faut que tu prennes le temps de gagner leur confiance. Si tu sais les écouter, ils te parleront.
Et moi, l'établi, est-ce que je vais y arriver?
Dépêche-toi, ils vont nous faire sauter les primes à cause de toi.
Laisse.
Papa, pourquoi on la voit pas?
La révolution? On va la voir, tu vas la voir.
Accident en courroie.
Mais vous nettoyez, vous mettez un pansement, il y retourne.
Tu comptes mentir aux camarades ouvriers sur ta condition bourgeoise?
Mentir, non. Je compte parler politique avec ceux que ça intéresse le moment venu, voilà.
Vous avez votre certificat d'études?
Ouais.
Alors qu'est-ce que vous faites chez nous?
Camarades, déjouons les manœuvres des politiciens au service de la bourgeoisie. Fasciste!
Ça fait 3 mois qu'il y est. Il se passe rien.
Et alors?
Et alors, le poste à la fac t'attend.
Si la révolution ne vient pas, j'ai pas de raison de faire un autre travail que celui-là.
Klatzmann, délégué CGT.
Robert, OS2.
Citroën n'a toujours pas digéré ce qu'ils ont été obligés de lâcher à Grenelle et je suis sûr qu'ils vont encore trouver le moyen de nous faire payer le peu qu'on a gagné.
Attends, ils reviennent sur les accords de mai ?
On va quand même pas accepter ça, non ?
Tu recommences.
Et vous allez faire quoi ?
Être prêt à faire arrêter la production, même si on n'est pas assez nombreux.
Il a raison, ce qu'on a fait en mai, on peut le refaire.
Mettre une usine en grève pour 3 heures sup, hebdo.
Ali, si tu arrêtes, c'est toute la chaîne qui est bloquée.
Ferme ta gueule.
Si quelque chose se passe, tu peux compter sur nous trois.
Vous avez entendu parler d'un tract qui circule parmi les ouvriers ?
Mais après, toi tu retrouveras ta place de prof, et eux ?
Ici en France, la grève est un droit, la grève est légale.
Je trouve légitime de rêver un monde meilleur. Et pas seulement de rêver, aussi peut-être de le faire.
C'était la bande-annonce de L'Établi, et là on va... Je te laisse raconter la suite.
Oui, on va passer à une comédie dramatique. Il y a du drame, il y a de la comédie, mais voilà, ça dure 1h27, ça s'appelle Normal. Normal avec un E au bout. Hein. C'est un film d'Olivier Babinet, qui est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Il a 13 ans de carrière, il a 6 tournages, oui, c'est ce que j'avais noté. Oui, c'est ça, 6 tournages à son actif. Et il a un prix et 13 nominations pour sa carrière. Voilà. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est d'après la pièce « Le monstre du couloir »,« Monster in the Hall », de David Gregg, parce que David Gregg est un Écossais. Donc, le titre de sa pièce était un nom en anglais, bien sûr, « Le monstre du couloir ». David Gregg, il a 54 ans, il est dramaturge, metteur en scène et directeur de théâtre en Écosse. Donc, c'est adapté de sa pièce. Lucie a 15 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords d'adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien, Lucie gère tant bien que mal et s'échappe dans l'écriture d'un roman autobiographique fantasque qui navigue entre rêve et réalité. L'annonce de la visite d'une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. Lucie et son père vont devoir redoubler d'inventivité pour donner l'illusion d'une vie normale. Voilà, le titre vient de cette illusion d'une vie normale. Et là, c'est pareil, on a un beau casting, ma foi. On a Benoît Poelvoorde, c'est lui qui joue William, le père. Et Lucie est jouée par Justine Lacroix. On a Joseph Rosé dans les rôles principaux. On a Steve Tiencheux. On les connaît physiquement, si on a l'habitude d'aller au cinéma. On peut avoir oublié leur nom. Pour Steve Tiencheux, par exemple, on l'a souvent vu dans des rôles secondaires excellents. Ainsi que Sofiane Kams aussi, on le connaît, Saadia Bentaïd, on a Méline Dubois, Geoffrey Carré, Candice Boucher, dans presque tous les rôles sont excellents de toute façon. Alors en fait, Olivier Babinet, donc, il avait, pour définir la tonalité voulue pour son film, il a une formule. Sa formule, c'est une goutte de Miyazaki dans Les Frères d'Ardenne. Voilà, c'est ça sa formule. Une goutte de Miyazaki dans Les Frères d'Ardenne. Cette hybridation se retrouve dans le mélange des genres entre teen movie, fantastique et chronique sociale, dans ce film normal, justement. Alors, il nous dit qu'il aime qu'un film ouvre des portes sur d'autres mondes sans forcément s'interdire d'être réaliste. Il trouve, lui, en tant que spectateur, il trouve que les notions de fantastique et de naturalisme ne sont pas incompatibles. Moi, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thibault ? Le fantastique peut être aussi de la réalité. Ça va bien avec, quoi, en fait. Moi, je suis d'accord.
Il faut des deux.
De toute façon, c'est ce qu'il nous dit, l'irruption du fantastique permet de mettre à distance le misérabilisme. C'est ça, et il ajoute, lorsqu'on se lance sans recul dans le réalisme social, il y a une certaine esthétique de la pauvreté qui tend à prendre de la place. Or, l'onirisme permet toujours de rendre l'espace un peu plus respirable. C'est ça. Eh ouais. Voilà ce qu'on peut dire sur ce film. Je voulais pas le rater, quoi. Je voulais absolument en parler à nos auditeurs. Voilà. Eh ouais.
Et là, tu m'as parlé d'un film, du coup, avec une bande-annonce pas française, du coup qui ne passera pas.
C'est une version originale. Et c'est un drame, et c'est policier aussi. Ça s'appelle About Kim Soe. Alors, About Kim Soe, c'est-à-dire, on traduit à propos de Kim Soe, hein, qui est un personnage, on va voir la suite. Et c'est Julie Young qui l'a réalisé, qui est une réalisatrice scénariste sud-coréenne. Je pense que c'est son premier long métrage, il me semble, et c'est un premier long métrage qui est récompensé puisqu'il a 7 nominations. Et c'est pareil, je voulais pas passer à côté. Ça me semblait important parce que je pense que c'est un très beau film. Kim Soe, c'est qui alors Kim Soe? C'est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids des conditions de travail. C'est des conditions dégradantes et les objectifs sont de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des autorités locales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yoo Jin est profondément ébranlée par ce qu'elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. Si on veut savoir ce qu'elle va découvrir, il faut faire quoi? Il faut aller voir le film, n'est-ce pas? Si on est d'accord.
Ah oui, il faut aller voir le film de toute façon.
De toute façon, hein. Donc, il faut ce film absolument. C'est une affaire qui a bouleversé la Corée, en fait, hein, cette affaire-là. C'est pas rien du tout, voilà. Non, c'est son deuxième long métrage à la réalisatrice. J'avais noté que c'était le deuxième. Oui, c'est ça, voilà. Le premier, c'était A Girl at My Door, une fille à ma porte, qui est sorti en 2014. Donc là, on a dans les acteurs, actrices, on a Donna Bae. Alors, ce sont des acteurs coréens, sud-coréens. Chouette, on va pouvoir les découvrir. Donna Bae, on a Choi Hee-jin, on a Sim Hee-seop, on a Kim Si-hoon. Je sais que les noms ne disent pas grand-chose, mais c'est par courtoisie que j'ai envie de citer quand même les acteurs. Alors, About Kim Soe a été le film de clôture de la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes. Donc, il a une nomination, précisément. Deux nominations, qu'est-ce que je dis? Ben oui, parce qu'il a une nomination à la Semaine internationale de la critique, donc 2022, et il a une nomination au Festival du film coréen à Paris en 2022 également. Voilà. Ça dure 2h17. Je ne sais pas si je l'avais dit. Peut-être pas,
je ne crois pas.
Non, je ne l'avais pas dit. 2h17. Ouais. Et c'est, voilà, c'est pareil, je n'avais pas envie de passer à côté du tout. Alors, ça s'est passé fin 2016 dans une petite ville de Corée du Sud, à Gyeongju, exactement. Est survenu un drame lié à l'histoire d'une lycéenne qui suivait une formation professionnelle dans un centre d'appel pour une grande entreprise de téléphonie. Sa famille et les syndicats ont affirmé qu'il s'agissait d'un accident du travail. L'entreprise en question a fui devant ses responsabilités. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est une histoire terrible, hein. L'indignation envers cette entreprise dont les conditions de travail dégradantes ont été révélées, a été très violente et des excuses ont été présentées avec la promesse d'améliorer les conditions de travail. Suite à cela, la loi a été modifiée et ce n'est que fin 2020, quand on lui a proposé d'en faire un film, que la réalisatrice de ce film a découvert ce fait divers. Ah, eh ouais. Et Donna Bey, là, l'actrice dont je parlais, a joué dans Une fille à ma porte, Girl at My Door. Elle était déjà dans le premier film de Julie Young, notre réalisatrice. Donc là, elle joue le rôle d'une détective. Hein. C'est elle la détective, Donna Bey. Hein. C'est pour ça que je voulais en parler quand même, ce fait divers qui a été extrêmement violent et qui a bouleversé la Corée en fait. Hein. Ensuite, eh bien, que veux-tu d'autre ? Voyons. Oh là 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 !
Va chercher on quitte la Corée et on retourne en France là.
Voilà. Va chercher ton cheval parce qu'on va partir à cheval là. Tu vas comprendre pourquoi. Le film s'appelle Les Trois Mousquetaires. Deux points. D'Artagnan. Ah, voilà. Alors, là, il y aura, mes chéris, il y aura pour vous, c'est sûr, c'est en décembre 2023, il y aura Les Trois Mousquetaires, 2.1010. Eh, mais oui, s'il vous plaît, ce sera le 13 décembre exactement d'ailleurs, 23, Les Trois Mousquetaires, 1010. Mais pour l'instant, on va se contenter de D'Artagnan. Donc, c'est un film qui est produit par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Tout le monde s'y est mis. C'est de l'aventure, c'est historique, ça dure 2 heures. 01, s'il vous plaît, ne pas oublier la minute. Et c'est Martin Bourboulon, qui est un réalisateur, adaptateur et scénariste français, qui l'a réalisé. Il a 43 ans, il a 6 ans de carrière, 5 tournages à son actif. Il a déjà eu, je ne sais plus combien, je l'ai noté, 1 prix et 3 nominations dans les festivals. Voilà, pour lui, en tout cas. Et alors, de quoi s'agit-il ? On sait, bon, on connaît évidemment les Trois Mousquetaires, mais bon, de quoi s'agit-il là exactement ? Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Ouh ! Sacré programme quand même là. Et on a un joli casting, mais oui, très sympathique, oh là là. François Civil joue D'Artagnan. On le connaît, François Civil, hein, c'est un comédien qui est monté, qui continue à monter. On a Vicky Krieps qui joue la reine Anne d'Autriche. Oh, on la connaît, Vincent Cassel. Ouh, c'est Athos, Vincent Cassel, s'il vous plaît. On a Jacob Fortune-Lloyd, qui est un Britannique et qui joue le duc de Buckingham. J'en perds les mots, bon sang, devant ce beau casting. Alors, on a Athos, d'accord, et moi je voudrais aussi Aramis. Ah, mais c'est Romain Duris, Aramis. Et Porthos, c'est Pio Marmaille. Bon sang, c'est quand même un sacré trio. Et Milady est jouée par Eva Green. Eh oui. Et on a Louis XIII qui est joué par Louis Garrel. Alors, on a Constance Bonacieux aussi. Eh oui, qui va tomber amoureuse de D'Artagnan, qui l'aime aussi. C'est Lina Coudry qui nous joue le rôle. Le cardinal de Richelieu est joué par Éric Ruff. Le capitaine de Tréville, c'est Marc Barbet. On les connaît tous. Hein. On a Gaston de France et Julien Frison. Le comte de Chalais, c'est Patrick Mille. On a Hannibal, c'est Ralph Amoussou. Et on a un garde qui s'appelle Gaston, qui est joué par Swann Lawa. On les connaît tous. Et, je donne les noms parce que je me dis que, en fait, ça permet de savoir quels sont tous les personnages là, importants qui sont dans ce film. Et c'est déjà pas mal. Hein. Alors, il a travaillé avec 2 autres scénaristes. Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Alors évidemment, on sait que Les Trois Mousquetaires, c'est d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, père, bien sûr. Qui ne connaît pas quand même Les Trois Mousquetaires ? Hein, bon, tu les connais, Thibaut, bien sûr.
Oui, je les connais, oui.
Problème, hein. Il y a eu des dessins animés aussi, hein, pas mal, sur les Trois Mousquetaires. Eh ouais. Alors lui, Martin Bourboulon, là, le réalisateur, il a cherché à reprendre contact avec les grands films d'aventure. Ouais, ouais. Il a, voilà, c'est ce qu'il voulait. Il nous dit qu'on a tous en mémoire la trame des Trois Mousquetaires, le sens de l'honneur et de la fraternité qui s'y raconte. Voilà, l'ample dimension des batailles. Eh ouais. On a tous lu les Trois Mousquetaires quand on était gosses, quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup d'entre nous, quoi, je crois. Donc, c'est le premier volet du diptyque, hein, c'est bien ce qu'on a dit. C'est lui, Martin Bourboulon, avec les mêmes acteurs, qui va donc nous proposer, en décembre 2023, Milady, les Trois Mousquetaires, Milady. Et c'est le même monde, on va trouver les mêmes, hein, les mêmes acteurs, et c'est toujours lui qui s'en occupe. Voilà.
Et je te propose qu'on regarde la bande-annonce, enfin qu'on écoute la bande-annonce.
Ah oui, ça c'est bien, merci.
Donc tout de suite, la bande-annonce des Trois Mousquetaires d'Artagnan.
Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire.
D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille ?
Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi.
Je rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire.
Excusez-moi.
Quoi ? C'est tout ?
Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre ?
Ce serait intelligent que d'avoir peur.
Votre éminence.
Il est dit.
Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver.
La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur.
Tireur ! Tireur !
Et nous aurons la guerre.
Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis.
Ils sont sept, nous sommes trois. Il me semble à moi que nous sommes quatre.
Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France.
Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre.
Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt.
C'était la bande-annonce des Trois Mousquetaires et d'Artagnan. Et je te laisse passer au dixième film et je suis en train de me rendre compte qu'on commence à approcher la fin.
Aïe, c'est mon homme.
Il y en a d'autres derrière qui attendent un peu pour les émissions d'aujourd'hui.
D'accord, c'est mon homme, c'est le titre, mais tu me diras, puis on s'arrêtera, hein. C'est pas grave.
Il n'y a pas de souci.
C'est mon homme, c'est un drame. Bah oui, 1h27, c'est pas le mien, hein, c'est le titre du film, on est d'accord. Et c'est Guillaume Bureau qui l'a réalisé. C'est un réalisateur, acteur, il est régisseur français, il a 12 ans de carrière, 4 tournages à son actif. Et là, alors de qui s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu'il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer. Mais une autre femme, réclame cet homme comme étant son mari. Sacrée histoire quand même, beau casting également. Alors, Julie, c'est Leïla Bekti, on les connaît tous. L'homme, le fameux homme, c'est Karim Leclou. On a Louise Bourgoin, on a Jean-Charles Clichet. Oui, oh là là, on a, c'est joli aussi hein, comme casting. Gilles-Clin de Fonclar, on a Véronique Ruggia-Sora, on a Jeanne Coendi, Emmanuel Schaff aussi, dans les rôles principaux, dans tous les rôles d'ailleurs. Et Guillaume Bureau, le réalisateur, a travaillé avec Pierre Chausson et Robin Pompilio, qui sont des scénaristes français. C'est vraiment. Il s'est inspiré de deux faits divers pour son film C'est mon homme, Guillaume Bureau. L'amnésique de Collegno, ça se passait dans l'Italie des années 20. Au fil d'incessants procès, deux femmes se sont disputées un homme dont elles prétendaient qu'il était leur mari. Soit un respectable professeur, soit un typographe collectionnant les maîtresses condamnées à la prison par contumace. Et puis aussi, il s'est inspiré du soldat, le soldat inconnu vivant, à la même époque en France. Ah oui, et ça j'ai découvert parce que ça je l'ignorais. Un long feuilleton judiciaire a opposé plusieurs familles autour d'un soldat amnésique retrouvé sur un quai de gare. Je ne connaissais pas cette histoire. Quand sa photo a paru dans la presse, plusieurs familles pensaient reconnaître un frère, un fils ou un père disparu durant la Grande Guerre. Remarque, comme il nous dit, le réalisateur remarquait, il faut savoir qu'après-guerre, 300 000 soldats environ sont déclarés disparus. Donc, ce sont autant de familles incapables de faire leur deuil. Et celles qui réclamaient le soldat inconnu vivant croyaient sincèrement retrouver leur proche disparu. Il s'appelait Anthelme Mangin, d'ailleurs, ce proche. Voilà, donc c'est pareil, je pensais que c'était un film à voir quand même, hein, avec un beau casting aussi. Et puis on a un drame, une romance, qui s'appelle Cœur errant. Ça dure 1h52, et c'est de Leonardo, alors là, pour la prononciation, c'est Brzezinski. C'est pas facile parce qu'il y a BR au départ, un B, un R et un Z. Comment tu prononces ça, toi, Thibaut? Un B, un R et un Z.
Je prononce pas.
C'est Ziki. Voilà, c'est un réalisateur, c'est un acteur. Et oui. Il ne nous a pas simplifié la vie. C'est pas grave. De quoi s'agit-il? Santiago, un père gay, est à un tournant de sa vie. Sous le choc d'une rupture amère, il est également confronté au départ imminent de sa fille, Leïla, avec qui il entretient une relation fusionnelle. Cette séparation brutale est le détonateur qui va pousser ce chef cuisinier couronné de succès à déambuler entre anciens amants, chems sex et plans à trois pour essayer de combler son manque affectif. Et oui, là, c'est sérieux quand même, hein. Alors, on a Leonardo Sbaraglia dans le rôle de Santiago. Ouais. Alors, c'est un acteur argentin. Donc, on va faire connaissance avec ces acteurs. Il y a Miranda de la Serna, il y a Eva Lorac, il y a Ivan González aussi dans les rôles principaux. On va les découvrir, on est ravis parce que lui, c'est un Espagnol, hein, Ivan González. On va pouvoir faire connaissance avec les acteurs qui sont excellents et qu'on connaît beaucoup moins. Dommage. Donc, on va les. Voilà. On fait leur connaissance. Il y a des Espagnols et des Argentins dans ce film. Et ouais. En fait, c'est ce que voulait le réalisateur, c'était parler de la vie intérieure de tout un chacun, particulièrement à travers le parcours du héros, donc Santiago. Parce que le metteur en scène, il s'identifiait à la crise d'identité traversée par le personnage. Cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, nous dit-il. Eh oui. Voilà. Ensuite, j'ai mis de côté quand même, je voulais en parler, un drame romancé, ce qui dure 1h35, ça s'appelle Cocon. Cocon avec des K, hein. K-O-K-O-N. Pas Cocon, C-O-C-O-N, hein, c'est pour ça. c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est Léonie Krippendorf, qui est une scénariste-réalisatrice allemande de 37 ans, qui a réalisé ce long métrage. Ouais, Léonie Krippendorf, qui commence à être connue en Allemagne, qui commence à, voilà, à, ça se passe bien pour elle. Un de ces étés caniculaires où l'on grandit si vite. Premiers amours et premiers déboires. Nora cherche sa voie dans le Berlin populaire de Kreuzberg, entre une mère absente et une grande sœur protectrice. Mais du haut de ses 14 ans, Nora se moque des injonctions sociales, de genre et des modèles instagrammables. Instagrammables, hein, on est d'accord? Instagrammables. Pas facile non plus à prononcer. T'as bien saisi, Thibaut? Instagrammables? Oui ou pas? Non? Elle veut vivre, briser son cocon et prendre son envol. Ah oui, c'est un cocon aussi, mais avec un K, puisque c'est allemand, un titre allemand. Donc, on a Tjella Haas, on a Lena Klenk, ce sont des actrices allemandes. On a Lena Urzendowski. Bah oui, ça ne me facilite pas la vie non plus. Je vais peut-être, je ne sais pas. Elle, c'est une, bah oui, c'est une actrice allemande également. Donc, on peut découvrir des actrices allemandes, là. C'est le moment ou jamais, si on ne les connaît pas. Elina Vildanova, moi, je ne sais pas. Peut-être Lena Klein, il me semble que je l'ai déjà vue. Mais bon, ça permet de les, justement de les rencontrer, si j'ose dire. Ouais. J'avais envie de... Ben voilà, c'était mon dernier, hein, Thibaut.
On a fait le tour pour aujourd'hui.
On a... Oui, j'ai vu que les noms que je prononçais te rendaient complètement muet. Hein. C'est pas facile de prononcer ces...
Non, c'est que j'ai un petit souci de micro. C'est bien Instagrammable.
Ah, ça va, Instagram.
J'ai parlé dans mon micro, mais je me suis rendu compte que tu m'entendais pas. Donc,
Ah oui,
j'ai parlé dans le vide.
C'est pas grave, c'était juste... Ouais, je voulais en parler quand même, parce que... C'est ça, quoi. C'est ce genre de film rare qu'on peut quand même aller voir parce qu'ils sont rares, justement. C'est un cinéma un peu rare. Voilà.
Mais je te propose, du coup, qu'on se retrouve mercredi prochain.
Ah, mais oui, tout à fait. Tout à fait, absolument. Bah, écoute,
ça fait dans les, les instants de l'émission d'aujourd'hui.
Oui. Passe une bonne semaine, ma foi.
Mais toi aussi.
Et puis, bah, oui, bien sûr. Et puis, chers auditeurs, bah, oui, passez une bonne semaine également. Soyez heureux le plus possible. Carpe diem, hein, on est d'accord. Du début de la journée à la fin, carpe diem. Il faut la profiter de la journée qui passe. Et n'oubliez pas, je vous aime. Bisous, bisous.
Silence. Ça me fait t'aimer comme personne. d'une vie sans histoire et sans feu. Tout le monde ment sans sourciller, tout le monde emporte ses secrets dans la tombe. T'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage en mer. Toi, tu as tes ombres et tes mystères. Tu vas le cœur en gondolière. Et moi, je veux juste te regarder faire. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi.
Dordogne, REM, 98.4 FM. Vous écoutez 100% Nouvelle Scène sur REM.
Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine, où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées, il faut les voir au petit jour se coucher tout étonnés du monde qui les entoure. Ils vont, ils viennent, ils traînent, ils parlent fort, ils ne parlent pas. Ils entendent des Carmen qui leur disaient viens par là, et chaque fois ils y vont, et chaque fois ils en reviennent entre un ange et un démon. Ainsi j'aime les hommes que j'aime.